Alors, on va prier. Après ça, je vais lire le psaume 150. Et ce matin, on étudie le verset 2. Alors, prions pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et nous voulons, Seigneur, prendre ce temps pour te louer et élever ton nom. Tu es merveilleux, tu es grandiose. Tu es l'essence même de notre vie. Sans toi, Seigneur, nous serions perdus. Nous ne pourrions rien, nous ne serions rien. Tout ce que nous sommes, tout ce à quoi nous aspirons, nous le devons à ta grâce et strictement qu'à ta grâce. Alors ce matin, nous voulons être reconnaissants à tes pieds. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom qui est plus haut que tout autre nom et le seul qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce, pour la miséricorde que tu as exercée envers nous. Merci, Seigneur, de ce que tu veilles sur nous. Tu prends soin de nous. Alors ce matin, j'appelle ta présence dans la vie de ma sœur et de mon frère. J'appelle ton onction sur leur existence. Et j'appelle ta grâce, Seigneur, à abonder, à surabonder dans leur vie. Et merci, Seigneur, pour la bénédiction du salut que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour ce libre accès à ta personne, à ta présence. Et merci, Seigneur, pour les bontés, la miséricorde et la grâce que tu exerces jour après jour envers nous. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu es là, que tu écoutes, que tu reçois la prière de tes enfants et que tu y réponds dans la perfection de ta personne et dans la perfection de tes décisions et de tes choix. Merci Seigneur d'être qui tu es et merci Seigneur d'agir comme tu agis dans nos vies. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, on ouvre nos Bibles dans le psaume 150. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le psaume que nous utilisons pour toute cette semaine. Hier, on a déjà débuté avec la prédication dans le psaume 150, le verset 1. On a eu l'occasion de expliquer certains termes grecs, hébreux plutôt, le terme « halal » qui veut dire « louer ». Et aujourd'hui, on reprend donc l'ensemble de ce psaume que je vais lire et par la suite, je vais relire le verset 2 qui sera la méditation du jour. Psaume 150 nous dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. » Le verset 2 que je reprends pour nous ce matin. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alors, comme je disais hier, le psaume 150 est probablement mon psaume préféré depuis déjà si longtemps. J'ai régulièrement enseigné le psaume 23, j'ai étudié et enseigné le psaume 91. Il y a tellement de psaumes qui sont célèbres, le psaume 121 qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours », le psaume 133 qui dit qu'il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il y a tous ces beaux psaumes, mais pour une raison que je ne saurais expliquer. Le psaume 150 est celui qui m'interpelle le plus. Et j'expliquais hier que bizarrement, Je n'avais jamais enseigné le psaume 150. Alors, je suis content de prendre cette semaine avec vous pour l'étudier. Hier, on a vu trois notions importantes. Le halal, qui était cette louange que nous élevons vers Dieu et qui revient, le mot revient régulièrement dans ce psaume, dans les termes louer l'Éternel. Halal, l'Éternel, Jéhovah ou Jah, qui est une abréviation de Jéhovah, qui veut dire tout simplement le seul vrai, véritable et véridique Dieu. Et Halal était cette louange qui émane du plus profond de nous, qui éclate comme une explosion et qui amène la lumière sur une chose. Halal veut dire briller, veut dire resplendir, veut dire éclairer. Et bien sûr, lorsque nous pratiquons le halal, lorsque nous louons, nous ne nous louons pas nous-mêmes, mais nous louons Dieu. Alors c'est comme si on mettait tous les réflecteurs et tous les projecteurs en direction de Dieu. On ramenait notre attention à Dieu et on amenait l'attention de tous ceux qui nous entourent ou nous écoutent vers Dieu. Donc on élève sa grandeur, on élève sa beauté, on élève sa bonté. On élève sa personne, ses actes, ce qu'il représente pour nous, et on amène tous à porter leur regard sur le Seigneur. Et on a vu que la louange devait se faire dans le Kodesh, dans le sanctuaire, qui était autrefois le tabernacle, qui était autrefois le pourtour autour du tabernacle où le peuple d'Israël se réunissait pour louer Dieu, rendre un culte à Dieu. Et on a vu que même dans le Nouveau Testament, il y a la similitude du Kodesh qu'on appelle l'Église, la maison de Dieu. Je m'excuse. Et que la maison de Dieu est aussi importante. Oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit réside en nous. Mais de surcroît, cette notion que nous sommes tous et chacun individuellement et respectivement temple du Saint-Esprit, la communion fraternelle, l'assemblée locale a tout à fait sa pertinence, même aujourd'hui, et a tout à fait sa pertinence et sa justesse, même dans le texte du Nouveau Testament. Et je citais par exemple le passage dans Hébreux, où l'auteur aux Hébreux va dire « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de certains. » Donc, louez Dieu dans l'Église. Louer Dieu dans ce lieu qui est attribué à Dieu, qui est attribué au culte de Dieu. Et de surcroît à cela, le louer aussi dans l'étendue où éclate sa grandeur. Et l'étendue où éclate sa grandeur, c'est l'univers tout entier, le firmament dans le texte hébreu qu'on a pu étudier. Et aujourd'hui, on continue en disant Halal, Geburah et Halal Rob. Godel, louez Dieu pour ses hauts faits, louez-le pour ses hauts faits. Donc toujours le terme halal qui revient, qui veut dire briller, resplendir, éclater, exploser, et agir comme un fou. Et je disais hier, c'est la notion que dans la présence de Dieu, j'oublie tous ceux qui m'entourent, ceux les personnes et ceux les choses. J'oublie ce qui m'entoure, j'oublie les personnes qui m'entourent, je ne prends plus, je ne fais plus cas de ce qui m'entoure. Mon attention est rivée, axée sur Dieu et je ne me concentre que en lui durant ce moment. Donc halal, H-A-L-A-L, H-A-L-A-L pour ceux qui prennent des notes. Louez-le pour ses hauts faits, Geburah, donc G-E-B-U. W-R-A-H. Je répète, G-E-B-U-W-R-A-H. Et lorsqu'on parle du Geburah, on parle de la force, de la puissance, on parle d'une vaillance, d'un courage ou des actions qui sont portées, posées par Dieu. En fait, dans cette première partie du verset 2, on nous dit que on loue Dieu pour la grandeur des actions de Dieu. Et je pense que ça, c'est une chose que nous connaissons et que nous pratiquons assez facilement. C'est non seulement rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, mais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait encore aujourd'hui, et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il va encore faire. Donc, louer Dieu, faire le halal et lever notre exaltation envers Dieu pour la grandeur de ses actions. Louez-le pour ses hauts faits. Ça veut donc dire que ce ne sont pas que de simples petites actions. En fait, tout ce qui vient de Dieu est grandiose. Juste le fait qu'il pense à nous, alors même une goutte de pluie qu'il fait tomber dans notre jardin, c'est déjà une merveille. Simplement qu'il nous accorde à nous tous ce matin le souffle de vie est une merveille. Qu'il nous accorde d'avoir peut-être un peu moins de douleur dans notre corps, de nous accorder d'avoir un peu plus de vigueur dans notre corps, c'est une merveille. Et alors, on est appelé, on est invité par David, par le psalmiste, à effectivement élever nos voix pour rendre grâce à Dieu et le magnifier pour la grandeur de ses actions. Voici quatre termes qui viennent avec Geburah, qui vont nous amener dans quatre espèces de louanges différentes, ou quatre thématiques de louanges différentes, toujours concernant les œuvres de Dieu. Le Geburah va parler de la force, va parler de la puissance, va parler de la vaillance et va parler du courage. Et vous allez me dire, mais c'est quand même des termes soit qui se ressemblent entre force et puissance et entre vaillance et courage, c'est aussi des choses qui se ressemblent. Mais on va y aller de façon plus technique, plus spécifique et vous allez vous rendre compte que ça va nous ouvrir à chacun d'entre nous des options de louange bien plus étendues. Parfois, les gens nous disent, « Ouais, mais quand j'ai prié pendant 5 minutes, quand j'ai loué Dieu pendant 5 minutes, je ne sais plus quoi dire. » Et je peux comprendre. La prière est une chose qu'on développe, la louange est une chose qu'on développe, l'intimité avec Dieu, c'est quelque chose qu'on développe aussi. Et certains vont dire très souvent la phrase facile, « Mais si tu réalises qui est Dieu, tu vas avoir des heures et des heures et des heures à louer. » Ouais, c'est vrai, mais le mécanisme n'est pas toujours là. Donc, pour nous qui arrivons à la foi, qui arrivons à de nouvelles pratiques de la foi et du culte qu'on rend en Dieu, ce matin, je pense qu'en expliquant un peu mieux les actions de Dieu, certains domaines d'action de Dieu, ça va vous donner, ça va vous inspirer un peu plus à savoir quelles sont d'autres choses que vous pouvez mentionner dans vos prières. Alors, la force. Geburah, louer Dieu pour sa force. C'est quoi la force? La force, c'est une énergie qu'on exerce. Lorsque vous prenez des cours de physique, on va vous parler que la force est donc une énergie qu'on exerce. Ça veut donc dire une action qui a été posée par Dieu. Première thématique pour nous dans notre louange aujourd'hui, la force de Dieu, donc les actions qu'il a posées. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour ton voisin? Qu'est-ce qu'il a fait pour ta sœur, pour ton frère, pour ta famille? Est-ce qu'on est capable de faire l'énumération, somme-t-il assez sommaire? Mais est-ce qu'on est capable de faire cette énumération, de s'arrêter et de dire, Seigneur, voici ce que tu as fait dans ma vie. Voici comment tu es intervenu de façon claire, palpable dans ma vie. Voici comment je reconnais tes œuvres dans ma vie. Donc, force, premièrement, action. Puissance, certains vont dire c'est la même chose. C'est deux choses différentes. Dans la physique, de ce que je me rappelle de mes cours de physique au lycée et au collège, la force, oui, c'était une énergie qui était exercée. La puissance, même au niveau physique, est une chose différente. La puissance, c'est la vitesse à travers laquelle une force est exercée. Pour nous, aujourd'hui, on va le voir d'une autre manière. Si la force était quelque chose que Dieu avait fait, la puissance, c'est la capacité de Dieu à faire des choses. Ça veut donc dire que c'est pas nécessairement que la chose ou l'action a été posée, mais nous savons que Dieu est capable de faire. Lorsque je parlais de ma maladie au tout début de mon aventure médicale, je disais Dieu est capable de faire une guérison, Dieu est capable d'intervenir, mais ce n'est pas parce qu'il est capable d'intervenir qu'il intervient nécessairement. Les gens me citaient des versets comme quoi Dieu guérit toutes les maladies. Et je disais, oui, faut pas se méprendre. Dieu guérit toutes les maladies, mais Dieu ne guérit pas tous les malades. Ça va selon son plan, selon sa volonté, selon ce qu'il sait meilleur. Et parfois, oui, Dieu rappelle un de ses enfants ou rappelle quelque humain qu'on soit dans l'éternité à travers la maladie. C'est un moyen que Dieu utilise pour nous ramener ou nous amener de l'autre côté de notre vie dans l'éternité. Donc, si on revient ici à force et puissance, la force, je le loue pour les actions qu'il a posées, pour les gestes qu'il a posé à mon égard ou à l'égard de ceux qui m'entourent. Mais de surcroît à cela, je loue aussi Dieu pour sa puissance, pour sa capacité à agir. Avant même que David n'ait affronté Goliath, David savait que Dieu avait la puissance, le pouvoir, l'autorité, la capacité de faire tomber Goliath. Un des endroits où on le voit très bien, c'est dans le passage où Nebuchadnezzar va dire aux compagnons de Daniel, à Shadrach, Meshach et à Abednego, que parce qu'ils n'ont pas adoré sa statue, il va donc les jeter dans la fournaise ardente. Et il va leur faire cette phrase en leur disant, « Et alors, quel Dieu vous délivrera de ma main ?» Il dit, « Mais si votre Dieu ne vous délivre pas, quel Dieu vous délivrera de ma main ?» Et Shadrach, Meshach et Abednego vont avoir cette réponse à Dieu. Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais s'il n'en décidait autrement, nous ne plierons pas nos genoux devant toi. Donc, ils étaient en train de faire la remarque comme quoi Dieu est capable, mais ce n'est pas parce que Dieu est capable qu'il va nécessairement faire la chose. Donc, il nous faut aussi louer Dieu pour les capacités, pour le pouvoir, pour l'habileté que Dieu a, qu'il manifeste cette puissance ou qu'il ne la manifeste pas, qu'il tourne cette puissance en force active, en force manifestée ou non, ou qu'il garde tout simplement en réserve la chose, nous devons le louer. Nous le louons parce qu'il nous délivre, mais nous le louons aussi parce qu'il est capable de nous délivrer. Et très souvent, louer Dieu pour sa capacité arrive même avant que cette capacité soit manifestée. Les gens qui vont louer Dieu pour sa puissance de guérison, souvent vont le faire avant même que la guérison ne soit intervenue. Mais je vous dirais que cette louange-là se fait en dépit que Dieu intervienne ou que Dieu n'intervienne pas. Lorsque quelqu'un est très fort, oui, on pourrait tout simplement attendre que sa force physique soit manifestée pour le craindre, pour se méfier de lui. Mais on pourrait tout simplement avoir un peu de logique en disant « ce gars-là est vraiment fort » sans même que vous n'ayez à voir sa force s'exprimer en levant des haltères ou en levant un poids. Notre Dieu est fort quoi qu'il en soit. Qu'il manifeste ou qu'il ne manifeste pas sa capacité, il reste qu'il est capable. Je parle anglais. Du moins, j'essaie de parler anglais. Mais c'est pas parce que je parle anglais qu'actuellement, j'utilise la langue de Shakespeare. Vous savez que je suis capable de parler anglais, même si actuellement, je parle français. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Il est capable de faire la chose et ça ne change rien en ses capacités qu'il l'exerce ou qu'il n'exerce pas cette capacité de façon active. Alors, lorsque nous louons Dieu pour sa force, donc sa force exercée, mais nous louons Dieu aussi pour sa puissance, qui est sa capacité à exercer une force, qu'il l'exerce ou qu'il ne l'exerce pas par la suite. Deux autres termes qui vont avec le Geburah, la vaillance. Vaillance, ça a souvent des connotations un peu erronées. Lorsqu'on parle de quelqu'un de vaillant, très régulièrement, on pense que ça veut dire courage. quelqu'un qui est vaillant dans l'étymologie du terme ou dans l'étude juste du terme, on ne parle pas de quelqu'un qui est courageux. La vaillance, ce n'est pas être courageux. La vaillance, c'est être, avoir de l'ardeur au travail, ne pas être paresseux, être actif dans notre travail. Ça veut donc dire que Dieu met de l'ardeur à la tâche. Ça veut dire que Dieu travaille, à ton égard, que Dieu travaille en ta faveur, que Dieu est actif dans ta vie. Il n'est pas là les bras croisés en se tournant les pouces, et la Bible nous le dit clairement. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu fait à la place de sommeiller, à la place de dormir, il fait quoi? Il veille sur toi, il veille sur moi. Et la veille est toujours une chose active. Même si veiller sur quelqu'un ne veut pas dire qu'on est en train de se battre pour lui, on est en train de surveiller, on est en train de s'assurer qu'il est adéquatement couvert, on est en train de surveiller qu'il est adéquatement protégé, qu'il a la provision nécessaire. Donc Dieu est toujours actif dans nos vies, dans sa quête de nous rassurer, dans sa quête de nous protéger, dans sa quête de pourvoir à ce qui nous est nécessaire pour aujourd'hui. Donc je loue Dieu du fait qu'il n'est pas paresseux dans ce désir et dans ce travail de veiller sur moi, et de ce qu'il est zélé, qu'il a un entrain, qu'il a une ferveur dans son travail à mon égard. Un autre verset qui nous montre que Dieu est effectivement zélé dans son travail, la Bible qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Ça veut donc dire, quand il dit « Je me tiens à la porte », il dit pas « Je suis présentement à la porte » dans le sens où je m'en vais après. Il dit non, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Dans cette notion, dans cette image, c'est Dieu qui est à la porte de nos cœurs et qui frappe, et qui frappe, et qui frappe, et qui frappe, et qui frappe encore, et qui ne cesse de frapper. Donc il a une fidélité au travail, il a une ardeur à la tâche, il a du zèle, un entrain, une ferveur dans ce qu'il est en train de faire à ton égard, et il ne se lasse point. Il ne se relâche point dans son travail à ton égard. Et là-dessus aussi, il nous faut louer Dieu. Et enfin, courage. Et là, vous allez me dire, mais courage, ça veut donc dire que Dieu a peur? Non, non. Courage ne veut pas dire que Dieu a peur. On n'effraie pas Dieu. La COVID actuellement n'effraie pas Dieu. La pandémie actuellement ne fait pas peur à Dieu. Il sait exactement comment intervenir, comment agir, comment régler cela. Et au moment opportun, il va exactement et de façon appropriée le faire. Lorsqu'on parle de courage et qu'on loue Dieu pour le courage, on parle plutôt de l'audace, du sang-froid qu'il a pour poser les actions qui se doivent. Nous, en tant qu'humains, à chaque fois qu'on pose une action, on se dit « Ah, mais quelles vont être les conséquences? Puis qu'est-ce que les gens vont dire? Puis qu'est-ce que les gens vont penser? » Lorsqu'on loue Dieu, et j'en parlais hier, David voit l'Arche de l'Alliance qui revient à Jérusalem et il exulte de joie, il exulte dans sa louange, ne se préoccupe plus des gens qui l'entourent, à un tel point où sa femme va lui dire « Mais t'avais l'air d'un fou de la manière que tu gesticulais, de la manière que tu louais ton Dieu. » Et nous, régulièrement, on loue Dieu, mais on réfléchit à savoir « Est-ce que je suis pas en train de déranger l'un? Est-ce que je suis pas en train de déranger l'une? Est-ce que je suis pas en train de me ridiculiser moi-même? » Qu'est-ce que les gens vont dire si je chante trop fort et que je chante faux? Qu'est-ce que les gens vont commencer à se plaindre ou quoi que ce soit? Donc, on se concentre malgré tout sur les gens qui nous entourent ou sur ce que les gens pourraient penser de nous, l'image qu'on dégage de nous quand on loue Dieu. Dieu lui pose des actions sans se soucier de qui que ce soit, sans se préoccuper de ce que les gens vont dire, parce qu'il sait que ses choix sont parfaits, juste, admirable dans toutes ses décisions. Donc, il a l'audace, Il a la maîtrise de ses décisions. Il a le sang-froid qui vient avec ses décisions. Lorsque Dieu appointe quelqu'un, il ne tremble pas. Lorsqu'il décide d'élever quelqu'un, il ne tremble pas en se disant, mais est-ce que ça se pourrait que cette personne me largue ou m'abandonne? Il sait si cette personne va le larguer ou va l'abandonner. Mais au moment précis où il élève la personne, il est adéquat et pertinent de le faire. Donc les jugements de Dieu sont justes et Dieu n'hésite pas à porter ses jugements, à faire ses décisions et à prendre des décisions et des initiatives dans ta vie. Alors lorsqu'on parle de louer Dieu pour son courage, on parle donc de louer Dieu pour les initiatives fermes, décidées, délibérées, décisives qu'il prend dans ton existence. Alors on loue Dieu, comme on l'a dit tout d'abord, pour le Geburah, donc pour les actions exercées de Dieu, pour la capacité que Dieu a à faire des choses, pour l'ardeur à la tâche qu'il manifeste dans ta vie et dans ma vie, dans la vie de ses enfants, pour les soutenir et pour les garder, et dans le choix radical, dans le choix ferme, réfléchi, bien pensé, sage et parfait qu'il prend dans ta vie et dans ma vie. Par contre, il y a une deuxième partie à ce verset. Donc, il y avait le Geburah, louer Dieu pour ses hauts faits, mais il y a aussi le Rob Godel qui parle maintenant de l'immensité de sa grandeur. Tout à l'heure, on parlait de la grandeur de ses actions, et ici, on parle maintenant de la grandeur de sa personne. Et c'est là où on rentre aussi dans un domaine illimité quand on veut magnifier la personne de Dieu. Donc, quatre termes importants. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais je vous donne quatre sujets ce matin. Je loue Dieu pour la grandeur de sa personne qui est magnifique. Donc, on loue la magnificence de Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu est admirable. Et je te pose la question, mais je me la lance à moi aussi. Lorsque je me présente devant Dieu, est-ce que je suis encore dans cette attitude où je suis en admiration avec mon Dieu? Quel est le regard que je pose sur Dieu? Quelle est l'attitude, quelle est la réaction que ça suscite chez moi lorsque je pense à Dieu? Est-ce que je reste encore dans l'admiration où je suis blasé? J'ai une attitude de « j'ai déjà vu, j'ai déjà connu », ça m'impressionne beaucoup moins qu'au départ. Ça serait tellement malheureux d'arriver à ce constat, mais soyons honnêtes, régulièrement on se présente devant Dieu et on a perdu cette étincelle dans notre regard, on a perdu ce feu dans nos pensées lorsqu'on médite sur Dieu. Et honnêtement, je pense à cela et je me dis, mais comment ça peut être possible dans ma tête que je puisse être habitué à Dieu, accoutumé à Dieu? Je relate toujours ce chapitre 6, les premiers versets du chapitre 6 d'Ésaïe, où on voit les anges qui sont toujours dans la présence de Dieu, qui sont constamment dans la présence de Dieu. Ces chérubins qui vont être là et qui vont se cacher avec une paire d'ailes, vont se cacher le visage parce qu'ils ne veulent pas être capables même de voir Dieu tellement sa magnificence est grandiose, admirable et éclatante. Alors, eux qui sont constamment dans la présence de Dieu, nous, on pense au Dieu Tout-Puissant qu'il y a devant nous. Est-ce qu'on pourrait être dans autre chose que dans l'admiration par rapport à Dieu? Donc, on loue Dieu pour sa magnificence. On loue Dieu pour son omnipotence et ça revient un peu dans la notion qu'on a dit tout à l'heure de la puissance, donc de l'énergie possible, de la capacité de Dieu. Est-ce que je le loue pour ce qu'il est capable de faire? Ces capacités qui sont hors normes, hors limites, qui sont incommensurables. Et est-ce que je m'étonne encore et je m'émerveille encore des capacités que Dieu a? Troisième terme, l'omniscience, le fait que Dieu sache tout, mais tout. Ça veut dire que même les choses que tu ne connais pas, les choses que tu ne comprends pas de ta propre personne, même les choses qui se passent à l'intérieur et que tu n'arrives pas à identifier. Dieu connaît cela. Pour chacune des situations que tu pourrais rencontrer, Dieu sait exactement d'où ça vient, comment ça se manifeste, quelles en sont les conséquences et comment régler la chose. Il connaît le sujet de A à Z, il le maîtrise pleinement et totalement. Est-ce que ce n'est pas l'être le plus sage, le plus connaissant, le plus intelligent qui soit? Nous louons Dieu pour son omniscience. Et on loue Dieu parce qu'il est éternel. Et là, on vient de voir quatre simplement des attributs de Dieu. Éternel parce que il défie le temps. Il défie et dépasse la notion de temps. Il n'y a pas une notion comme quoi Dieu vieillit. Il n'y a pas une notion comme quoi Dieu est dépassé par cette époque, par cette situation, par cette génération, par ce contexte que nous vivons. Dieu dépasse la question du temps. Dieu dépasse la question des époques et des générations et des contextes ponctuels de la vie humaine. Il connaît comment agir dans telle et telle et telle et telle et telle et telle situation. Et il n'y a pas une circonstance qui survient, même si elle survenait pour la toute première fois, que Dieu n'a pas déjà connu, qu'il n'a pas déjà su et qu'il ne sait pas comment opérer dans cette situation. Dieu sait parfaitement comment opérer dans la situation que tu vis aujourd'hui. Même si pour toi c'est la première fois que tu passes à travers, et même si dans toute l'histoire du genre humain, tu étais la toute première personne à passer à travers cela, Dieu sait exactement comment intervenir. Il m'est arrivé à un moment donné de passer par une situation et de chercher des réponses à droite et à gauche. Je lisais, et Dieu m'a permis d'avoir contact avec des gens qui étaient vraiment ferrés en question théologie, en question études bibliques. Je suis allé porter, c'était des sommités reconnues internationalement par la majeure partie de la chrétienté. Et je leur ai écrit en demandant, mais qu'est-ce que vous faites par rapport à une situation ainsi? Et les gens disaient, Florent, on ne comprend pas, Florent, on ne sait pas, on prie pour toi. Et ce qu'ils me rappelaient, c'est que Dieu est au contrôle, Dieu va t'aider. Donc oui, même dans les situations qu'on pourrait rencontrer et qu'on croit être les seuls, et assurément je n'étais pas le seul dans toute l'histoire de l'humanité à être passé par cela, mais même dans cette situation, ben Dieu est encore Dieu. Et Dieu n'est pas limité par ma situation. Et en fait, cette situation, je pourrais vous dire qu'elle n'a pas été réglée, mais dans mon cœur, elle est réglée. Dieu a agi dans mon cœur et ce n'est plus une préoccupation, ce n'est plus une inquiétude, ce n'est plus un trouble. Et Dieu est intervenu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité au temps et aux circonstances de ma vie présente. Il les dépasse de façon glorieuse et grandiose. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'on loue Dieu pour ses actions, qu'il fait ou qu'il est capable de faire, mais on loue aussi Dieu pour tout simplement la personne qu'il est. Et lorsqu'on regarde vers lui, on se rend compte qu'on n'a jamais rencontré quiconque comme lui, on n'a jamais côtoyé quiconque comme lui. Il est mieux que la meilleure des personnes que vous n'ayez jamais rencontrées de votre vivant. Et il dépasse cette personne comme... Il n'y a pas photo, là. C'est immensément plus grand, immensément plus amour, immensément plus doux, immensément plus rempli de compassion. Donc on loue Dieu pour ses hauts faits et on loue Dieu pour l'immensité de sa grandeur. Alors on va prier. Seigneur, effectivement, ce matin, on veut te louer pour tes actions en notre faveur, pour tes hauts faits. Ce que tu as déjà fait, ce que tu fais, ce que tu feras. Merci, Seigneur. Et je suis convaincu que ma sœur et mon frère, si on prend le temps, chacun pour soi, on serait capable de faire une liste qui dépasserait même les feuilles qu'on pourrait avoir devant nous. Mais Seigneur, on veut aussi te louer pour ta grande capacité. En fait, ta capacité sans limite tout est possible. Tout est possible à toi. Tu es capable. Seigneur, tu es aussi très sage. Tu sais quand agir et quand il ne faut pas agir. Et tu as la justesse de tes jugements. Quand tu décides d'agir, c'est parce que le temps est venu et c'est approprié que tu le fasses. Mais à l'occasion, Seigneur, tu décides de ne pas faire selon ce que l'homme pense qui serait juste et adéquat. Et même dans ces situations-là, ce que tu fais en n'agissant pas est tout à fait, exactement, excellemment parfait. Alors Seigneur, je te loue parce que tu guéris, mais je te loue aussi parce que tu es capable de guérir. Et je te loue, Seigneur, aussi parce que parfois, tu décides de ne pas guérir. Parfois, effectivement, tes enfants doivent marcher par la foi, en dépit de la maladie, en dépit des circonstances. Mais même dans ces moments difficiles, c'est vers toi que nous nous tournons pour te dire « Tu es bon, tu es grand, tu es puissant ». Seigneur, nous voulons te louer non seulement pour ce que tu fais ou ce que tu es capable de faire, mais nous voulons te louer aussi, Seigneur, tout simplement pour la personne que tu es. Il n'y a personne, mais personne, comme toi. Personne ne peut se comparer à toi. Tu les dépasses toutes et tous. Personne, Seigneur, ne peut être mis en compétition devant toi. Tu les dépasses tous et toutes. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Et effectivement, si nous prenons le temps de réfléchir au Dieu grandiose que tu es, nous n'aurions même pas de notre temps ici-bas sur terre, pour te louer comme tu le mérites. Et l'éternité tout entière, nous te louerons dans une louange sans fin et nous ne parviendrons jamais à achever de dire combien tu es grand et grandiose. Alors Seigneur, nous voulons déjà nous entraîner ici-bas sur terre. Nous voulons déjà commencer à te louer. Certains, Seigneur, sont venus à te connaître après 30 ans. Certains sont venus à te connaître après 40 ans. Certains t'ont connu, mais ne t'ont pas loué comme ils devaient te louer. Alors on a peut-être perdu 50 ans. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre le temps pour élever ton nom. Je veux prendre le temps, Seigneur, pour te magnifier, pour te glorifier. Parce qu'effectivement, Seigneur, si nous y réfléchissons bien, on ne devrait pas être capable de tarir d'éloges à ton égard. Alors, Seigneur, mets à nous un chant nouveau. Mets en nous, Seigneur, une louange nouvelle. Et permets-nous de réaliser que celui qui est en nous est bien plus grand, bien plus fort que celui qui est dans le monde. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, c'était tout pour ce matin. Juste remonter un peu pour saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Vous êtes quand même plusieurs. Je remonte. Voilà. Donc, on vous rappelle l'étude avec le pasteur André ce soir, le cours sur le livre de l'Apocalypse. On vous invite à être là à partir de 19h. Alors, bonjour à Linda, bonjour au pasteur David, bonjour à Marie-Marthe, à Georgette, à Andrise, bonjour à Consuelo, bonjour à Jean-Louis, bonjour à Visebulon, bonjour à la sœur Teresa et à la sœur Dora, bonjour à Cynthia, bonjour à Martha Lucia, bonjour à Jocelyne et à Jacques, bonjour à Diana, bonjour à Lucie, Rinaldi, bonjour encore à Ginette et à Gaëtan, bonjour à Marie-Huguette, bonjour à Adriana, bonjour à Denise Gaudreau, bonjour à Julie Giraldo, bonjour à Maggie, bonjour à Aniris, bonjour à Mihandra, Elijah, Bonjour à Massi, j'espère que je prononce bien, Dieu vous bénisse. Bonjour à Emmanuel Mélissa. Bonjour à qui d'autre? Je pense que... Mais bonjour à Mei Ling Wong. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Patricia. Bonjour à Léandra. Bonjour à Gilles. Bonjour à Julie. Bonjour à Patricia. À Pascal. Bonjour à qui d'autre? C'est les seuls noms qui me viennent en tête qui vont venir nous écouter un peu plus tard ou qui nous écoutent via la page web de l'Église. Alors à vous tous, bonne journée. On se retrouve demain matin pour le verset 3 dans ce psaume 150. Prenez du temps aujourd'hui sur votre heure de lunch si vous êtes au travail ou même pendant que vous travaillez si vous avez la capacité de faire plusieurs choses en même temps. N'oubliez pas, prenez du temps pour louer Dieu. Lançons-nous ce défi. Au lieu de prendre du temps pour présenter des besoins aujourd'hui, prenons du temps pour louer Dieu et le célébrer pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est capable de faire et pour la personne merveilleuse qu'il est dans notre vie et dans l'univers. Alors que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. On se retrouve ce soir 19h avec le pasteur André, sinon demain matin pour la prochaine bénédiction matinale. Bonne journée à tous.